le patriarche, était un très vieil homme au sourire doré par les prothèses, bavard comme une pie. Il parlait trois mots de français, qu'il avait appris avec l'armée du Levant, dans laquelle il avait servi au temps du mandat français sur la Syrie. Debout, couché, marché. Ordre qu'il criait deux par deux, avec une joie intense. Debout couché, couché marché. Heureux non seulement du simple plaisir de la réminiscence, mais aussi de la présence d'un auditoire francophone censé goûter ses injonctions martiales. Notre arabe était trop limité, surtout celui de Bilger, restreint à creuser, pelle, pioche, autre version du debout couché marché, pour bien comprendre les nombreux récits de ce chef de clan octogénaire. Mais Sarah réussissait, autant par empathie que grâce à ses connaissances linguistiques, à suivre les histoires du vieil homme, et, plus ou moins, à nous en traduire le sens général quand il nous échappait. Bien sûr, la première question de Sarah au Mathusalem local concerna Marga d'Endurin, la comtesse de Palmyre. L'avait-il connue? Le cheikh se gratta la barbe et secoua la tête. Non. Il en avait entendu parler de cette compta palmyrienne, mais rien de plus. Pas de contact avec la légende. Sarah devait être déçue. Nous buvions une décoction d'écorce de cannelle douce et parfumée, assis en tailleur sur les tapis de laine posés à même la terre. Un chien noir avait hurlé à notre approche, le gardien du bétail, qui protégeait les bêtes des chacals, voire des hyènes. Les histoires de hyènes que nous racontaient le grand-père, ses fils et le colporteur faisaient dresser les cheveux sur la tête. Sarah était aux anges. Immédiatement remise de sa déception de ne pas avoir rencontré un des derniers témoins du règne de Marga d'Endurin, l'empoisonneuse du désert. Elle se retournait souvent vers moi avec un sourire complice, et je savais qu'elle retrouvait dans ses récits magiques les contes de goules et autres animaux fantastiques qu'elle avait étudiés. La hyène, presque disparue de ses contrées, rassemblait sur elle les légendes les plus extraordinaires. Le vieux cher était un conteur de premier ordre, un grand comédien. Il faisait taire d'un geste bref de la main ses fils ou le colporteur pour avoir le plaisir de raconter lui-même une histoire qu'il connaissait. La hyène, disait-il, hypnotise les hommes qui ont le malheur de croiser son regard. Ils sont alors contraints à la suivre à travers le désert jusqu'à sa grotte, où elle les tourmente et finit par les dévorer. Elle poursuit dans leurs rêves ceux qui réussissent à lui échapper. Son contact fait naître d'horribles pustules. Pas étonnant que ces pauvres bestioles aient été copieusement massacrées, pensais-je. Le chacal, quant à lui, était méprisable mais inoffensif. Son long cri perçait la nuit. Je trouvais ses gémissements particulièrement sinistres, mais ils n'avaient rien à voir, soutenaient les bédouins, avec l'atroce appel de la hyène, qui avait le pouvoir de vous figer sur place, de vous glacer de terreur. Tous ceux qui avaient entendu ce feulement rauque s'en souvenaient leur vie entière. Après ces considérations de zoologie surnaturelle, nous essayâmes, Sarah et moi, comme Aloïs Musil, imaginais-je, avec ses propres nomades, d'obtenir des informations sur les sites archéologiques des environs, les temples, les châteaux, les villes oubliées que seuls les Bédouins pouvaient connaître. Cette démarche énervait le roi Bilger, certain que des générations d'orientalistes avaient épuisé le désert. Les Grabar et Tingaosen ou Hillenbrand s'étaient employés des années durant à décrire les ruines islamiques, pendant que leurs confrères spécialistes de l'Antiquité relevaient les forts et villages romains ou byzantins. Plus rien à découvrir, pensait-il. Effectivement, nos hôtes nous parlèrent de Casseller et de Rassafé, non sans y ajouter des histoires de trésors cachés qui amusèrent moyennement Bilger, encore légèrement vexé par son erreur d'orientation. Il m'expliqua, en allemand, que les autochtones observaient les excavations des archéologues et creusaient à leur tour dès que ceux-ci avaient tourné casaque. Ces corneilles de l'archéologie étaient une plaie bien connue des chantiers, dont les abords finissaient, exagérait Bilger, encombrés de